Hein? Je vous avais dit l'exemple amusant là, du paralytique descendu à travers le toit, où on précise, Saint-Luc précise qu'on écarte les tuiles alors qu'il n'y en avait pas dans les pays méditerranéens occidentaux. Alors, il y a aussi des limites à l'interprétation, enfin disons à l'actualisation et à l'inculturation. Et de fait, il y a des lectures tendancieuse de l'écriture, celle des sectes par exemple, qui opèrent des sélections dans les textes et qui choisissent un point de vue particulier à partir duquel elles reconstruisent tout l'ensemble. Vous voyez par exemple les lectures marxisantes où on part du dogme marxiste de l'aliénation par la classe dominante. Et puis on va lire toute la Bible à cette lumière-là. Puis ensuite toute l'histoire de l'Église à cette lumière-là. La liturgie, par exemple, ça sera la manière dont la bourgeoisie, enfin la classe dominante cléricale, a imposé ses canons à la classe dominée, qui est celle des fidèles. Après, il y aura une lecture féministe aussi, qui est l'histoire de l'émancipation de la femme qui est comment dire, assimilée à la classe dominée marxiste, hein, etc., etc. Donc il y a toutes sortes de lectures où on prend un point de vue particulier et on va relire tout à partir de ce point de vue particulier. Mais à ce moment-là, le point de vue central est oublié. C'est plus Dieu et le Christ, c'est désormais autre chose.
Pratique Macron, là, l'inculturation.
Oui.
La lettre qu'il a lue, la lettre du.
Ah oui,
vous avez vu?
Il a
Non.
transformé.
Il a transformé. Regardez la lettre, il a enlevé. Il disait merci à monsieur le curé, merci à l'évêque. Il disait qu'il était catholique, il était pour la
Ah.
France. Il a supprimé
Ah oui?
les 4 ou 5 lignes dans la lettre qu'il a lue. Relisez bien la
Ah, oui,
lettre.
d'accord.
Il a supprimé les 4 ou 5 lignes où le garçon disait qu'il était chrétien, qu'il était catholique,
Oui,
qu'il était merci, qu'il était vive la France. Il a supprimé cette espèce de salaud en étant
Ah,
vulgaire.
la lettre
Il a
de.
pratiqué l'inculturation.
Ah, la lettre du 6. Là pour aujourd'hui, là pour
Oui, ce qu'il a hier, ou ce qu'il a
Ah
dit
oui.
hier.
Ah, d'accord. Ah
Relisez
oui,
la lettre,
la
monsieur.
lettre d'un jeune qui a
Oui,
été fusillé.
qui a été fusillé.
Il a
Ah, qui était catholique. Ah oui, voilà.
Lisez sur le salon beige et
Ah,
vous
oui.
Prendrez le
Oui,
capitaine.
il met en
Ah,
gras.
il enlève, il met en gras ce qu'il a enlevé.
Oh,
quelle crapule.
Ah oui, mais ça, on a un vrai métro
Ah oui.
Il avait comme la lettre, il n'avait qu'à prendre la
Bah
lettre.
oui, il a, ou il avait prendre une autre lettre. Voilà. C'est vraiment des.
Ah, mais bien sûr qu'il a fait exprès, parce qu'il
a supprimé la France éternelle.
Là, il a supprimé, quand il parlait de la France éternelle, le garçon,
oui.
quand il parlait merci à monsieur le curé, merci à
oui,
monseigneur l'évêque
qui
est venu. Qui a...
que...
Non, il a supprimé toute
ouais.
cette partie-là.
Ouais,
c'est vraiment, oui, c'est... Ça, c'est une actualisation, vous voyez.
À l'envers.
Voilà, oui, voilà. On peut dire une actualisation où on prend en considération l'époque actuelle qui
voilà.
se veut laïciste.
Ouais.
Voilà.
Oui,
oui, c'est.
Plus on est pratiquant, plus on votre
Alors, donc pourquoi ces lectures sont pas admissibles, ces lectures sont dites tendancieuses? C'est parce qu'elles font violence au sens véritable que seule la règle de foi peut donner. Hein, on se souvient que on peut dire c'est la règle de foi qui est le critère de l'interprétation des textes bibliques. Et ça, c'est la communauté de l'Église qui en est la dépositaire. Et sinon, c'est ce qu'on appelle l'hétéro-interprétation, hein, une interprétation qui vient d'un autre point, mais qui ne peut plus être considérée comme chrétien, comme théologique. Alors, on a toutes sortes de choses, des lectures qui substituent au Christ réel de la foi une idéologie, un principe donc théorique extérieur à la foi. Alors par exemple, le rationalisme qui pourrait presque dire exclut Dieu à le surnaturel comme base, hein, en pratiquant une sorte de suspension de jugement. Mais parfois, on ne retombe pas sur ses pieds à la fin. des options contraires à la justice ou à la charité évangélique. Par exemple, il y a des lectures, on peut dire calvinistes sud-africaines, qui justifiaient l'apartheid et l'esclavage à partir de l'Ancien Testament. C'est facile pour les calvinistes, l'Ancien Testament a autant de valeur que le Nouveau. Alors bon, et alors à ce moment-là, on sort des passages de leur contexte, on se dit regardez, ça existait, c'est bien, donc il n'y a qu'à continuer. Et donc, vous voyez, des choses de ce genre, ou, enfin bref, à partir de différents points de vue, on peut toujours arriver à interpréter l'Écriture sainte. Alors, par exemple, la théologie de la libération est un bel exemple de ces lectures qui se sont fourvoyées, ou du moins qu'ils l'ont fait à dessein d'ailleurs. Alors, parce qu'elle va prendre comme cœur de la révélation, cœur de la Bible, c'est la sortie d'Égypte. Alors, c'est plus le Christ, mais tout est interprété à la lumière de la sortie d'Égypte. Et l'action de Jésus n'est que la continuation, subordonnée d'une certaine manière, de la sortie d'Égypte. Donc le grand patriarche, c'est Moïse, en gros. Et alors à partir de là, tout doit être lu comme tout doit se rapporter à cette œuvre de libération que Dieu réalise de son peuple humilié par des puissants, etc., etc. Et donc tout est lu comme ça, comme l'abîme n'est rien d'autre que un peuple qui se libère de l'oppression étrangère, de l'oppression des classes dominantes, etc. Donc, on insiste unilatéralement sur les récits de libération et on sous-estime le caractère intégral de la libération apportée par le Christ, qui va bien au-delà de la libération nationale d'un peuple exploité. Hein. Si tant est que, comme je vous disais tout à l'heure, il faut s'appuyer aussi sur le sens littéral, et les recherches montrent que peut-être l'épopée de l'Exode n'était pas aussi... Grandiose que la Bible veut bien le dire. En revanche, c'est une préparation typologique de l'authentique libération, qui est la libération de la nature humaine, de son ennemi le plus mortel, le vrai pharaon, c'est le démon. Et le vrai fouet de corvée de Pharaon, c'est la mort. Donc le péché est la mort. Donc là, c'est un bel exemple d'hétéro-interprétation où le marxisme sert de grille d'analyse de l'ensemble de l'écriture. Et le résultat de ça, c'est que c'est une Bible rapetissée, une Bible mutilée, où on vise quoi ? Une eschatologie trop terrestre, un messianisme sécularisé. Une sorte de millénarisme où finalement, qu'importe que les générations tombent du moment que la dernière est libérée. Quoi. Donc, il y a des signes de ces déviations de lecture, vous voyez. Par exemple, pour la lecture marxiste, c'est la place démesurée de l'Ancien Testament par rapport au Nouveau. Un autre exemple... C'est un peu aussi la théologie féministe, qui est une sorte de remake de la théologie de la libération, mais à usage des femmes, et qui s'est développée dans la décennie qui a suivi la théologie de la libération. Alors, dans sa forme radicale, elle refuse la Bible parce qu'elle a été produite par des hommes. Et dans sa forme mitigée, elle l'utilise, mais en la réinterprétant comme un processus d'émancipation de la femme, analogue à celui des Hébreux lors de la sortie d'Égypte. Voyez. Et alors, du coup, on va recourir à une herméneutique du soupçon, la geste de la libération de la femme de l'oppression masculine est évidemment occultée par les textes bibliques, puisqu'ils ont été rédigés par des hommes. Et voilà. Et on retrouve, si vous voulez, le canon dans le canon qui est typique des protestants, c'est-à-dire une idée qui va être l'idée interprétative de tout. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre exemple? Il y en a qui me passait par la tête là. Oui, enfin bon, bref. Mais on a, vous voyez, on peut quasiment avec toutes les tartes à la crème à la mode, eh bien, de faire sa lecture de la Bible. Alors, il y a des lectures psychanalytiques, des lectures psychologisantes, etc., etc. Et en fait, finalement, qui dissolvent l'écriture sainte parce qu'elle ne respecte pas la règle de foi. J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je suis en train de préparer un livre de mélange pour celui qui prêchera la messe de clôture de Chartres lundi, pour ses 80 ans, l'année prochaine donc. Et je prépare ça avec une professeure de l'Université de Louvain. Et alors elle m'a dit, on s'est vu mardi là, et elle me disait, écoutez, j'ai un problème, quelqu'un m'a dit que sur les 700 pages de notre livre et sur la trentaine de contributeurs, il n'y a pas une femme. Alors j'ai dit, ah mince. Et alors elle me dit, on peut quand même pas respecter la parité. Elle me dit, je sais pas d'où je les prendrais. Et alors j'ai dit, écoutez, vous faites au moins un article. Et on s'est dit, mais peut-être que si elle fait un article, elle sera là, elle sera considérée comme la caution féminine d'un ouvrage d'homme, oui. Le problème, c'est quand même un ouvrage de théologie où quasiment tous les auteurs sont en fait des clercs. C'est effectivement difficile de trouver des femmes, surtout qu'ils sont tous des clercs catholiques. Donc, on ne peut pas trouver de théologienne, pasteur, etc. Alors, on est bien embêté. Mais voyez, par rapport au sujet, on n'avait pas de. Et alors, donc, on était. Mais voyez, c'est vraiment le sujet qui ne serait pas posé il y a 20 ans ou 30 ans. Et là, maintenant, il y a des gens qui posent la question en disant c'est ça, la parité.
Il y en a qui diront, ça ne m'étonne pas.
Oui, voilà.
Il y a des mecs.
Parce que l'Église est machiste, etc., etc., etc. Alors, il se trouve qu'à l'époque où Monseigneur enseignait à Louvain, il y avait évidemment plein de filles, mais la plupart, ceux qui sont devenus professeurs de théologie, c'était quand même, ou de philosophie, c'était plutôt des hommes. Et ça, c'est pas de notre faute. Hein. Alors, en tout cas, on pourrait dire la conclusion, c'est que l'actualisation et l'inculturation sont des tâches qui sont nécessaires à la vie de l'Église. Car la Bible est véritablement une source qui est toujours actuel et pour toutes les nations, puisqu'on l'a à la fin des évangiles, aller baptiser toutes les nations et enseigner-les. Et comme le dit encore une fois le dernier concile dans le. Enfin, quand je dis dernier concile, c'est pas le dernier de l'histoire, le dernier qui s'est célébré, comme on dit. Dans sa constitution sur la liturgie, il dit « Le Christ est présent dans sa parole, puisque c'est lui-même qui parle lorsque les Saintes Écritures sont lues à l'Église. » Donc, on pourrait dire, si on fait une lecture de poèmes de Baudelaire, c'est Baudelaire qui parle à travers les poèmes qu'on lit, c'est vrai aussi. Mais c'est moins vrai que de le dire de l'Écriture sainte, parce que l'auteur principal de l'Écriture sainte, c'est bien le Verbe. De n'importe quel auteur, on peut dire qu'il parle quand il est lu, mais on peut le dire encore davantage au carré, si vous voulez, du Verbe, puisque c'est lui qui est, les pères du Moyen-Âge, le Verbum abbreviatum. Il est le Verbe abrégé. Alors, Et la Bible est aussi à la base de ce qu'on appelle la Lectio Divina, cette lecture individuelle ou communautaire des Écritures qui se prolonge dans la foi, sous l'action de l'Esprit Saint, en méditation, en prière, en contemplation, etc. Et comme le dit saint Paul, cette lecture permet d'accéder à l'éminente connaissance de Jésus-Christ. C'est en méditant l'Écriture, c'est en méditant l'Écriture qu'on, donc le Verbe fait papier, si vous voulez, qu'on accède au Verbe fait chair dans sa plénitude. Et vous savez là-bas l'importance qu'a eu cette lecture communautaire dans la vie de l'Église, dans les milieux monastiques, mais aussi tout bêtement à la messe du dimanche et deux semaines. Et puis c'est aussi la base de l'oraison, hein, de la prière personnelle, silencieuse. En somme, goûter la parole pour atteindre celui dont elle parle, et même se laisser tellement imprégner par cette parole qu'elle devient la parole par laquelle on s'adresse à lui. Hein, Dieu nous parle d'une certaine manière par sa parole qui est consignée dans la Bible. Par la méditation, la prière, sous l'action de l'Esprit Saint, on accède à une connaissance plus profonde de cette parole. Et en fait, on s'adresse à elle avec les mots qu'elle nous a donnés. C'est pour ça que quand on prie, quand les disciples disent « apprenez-nous à prier », eh bien, Jésus va enseigner une prière qui vient du Verbe éternel dans une forme qui est celle de l'écriture de l'Ancien Testament, portée par celle du Nouveau Testament, donc doublement, triplement parole de Dieu en quelque sorte, et qui est la parole par laquelle on s'adresse à lui. Donc, vous voyez comment on est vraiment, on reste dans la sphère de la parole. De la parole de Dieu. On pourrait dire aussi, et c'est comme ça que le texte de la Constitution s'achève, que c'est la base du dialogue œcuménique, puisque finalement, toutes les dénominations chrétiennes, comme on dit en anglais, elles sont toutes issues de la Bible. Donc, alors la Bible parfois un peu trafiquée, mais la Bible quand même. Et c'est certainement plus à partir de la réflexion du travail sur l'Écriture sainte qu'on peut retrouver l'unité perdue, plus que par d'autres considérations plus extérieures. Alors, je regarde l'heure. Bon, alors, je vais peut-être introduire un peu la dernière section. Mais c'est une section, finalement, je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout, mais qui au moins avait été bien abordée quand on a étudié les pères, parce qu'en fait c'est la reprise de la patristique. Alors je l'ai intitulé « L'écriture dans la tradition », en reprenant, je crois, le titre d'un ouvrage du cardinal de Lubac.